France Inter.
Aujourd'hui, ornithérapie, les oiseaux pour aller mieux, raconté par...
Élise Rousseau, journaliste et naturaliste.
Et Philippe Dubois, ingénieur écologue et ornithologue.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il était une fois une petite ville au cœur de l'Amérique où toute vie semblait vivre en harmonie avec ce qui l'entourait. Même en hiver, les bords des routes étaient beaux, d'innombrables oiseaux venaient y picorer les baies et les graines que les herbes sèches laissaient pointer au-dessus de la neige. La campagne était d'ailleurs réputée pour l'abondance et la variété de ces oiseaux, et lorsque les flots de migrateurs déferlaient au printemps et à l'automne, les gens accouraient de très loin pour les observer. Et puis un mal étrange s'insinua dans le pays et tout commença à changer. Un mauvais sort s'était installé dans la communauté. De mystérieuses maladies décimèrent les basses-cours. Le gros bétail et les moutons dépérirent et moururent. Partout s'étendit l'ombre de la mort. Les fermiers déplorèrent de nombreux malades dans leur famille. En ville, les médecins étaient de plus en plus déconcertés par de nouvelles sortes de dégénérescences qui apparaissaient chez leurs patients. Il y avait un étrange silence dans l'air. Les oiseaux, par exemple, où étaient-ils passés? On se le demandait avec surprise et inquiétude. Ils ne venaient plus picorer dans les cours, les quelques survivants paraissaient moribonds, ils tremblaient sans plus pouvoir voler. Ce fut un printemps sans voix. À l'aube qui résonnait naguère du cœur des grives, des colombes, des geais, des roitelets et de cent autres chanteurs, plus un son ne se faisait désormais entendre. Le silence régnait sur les champs, les bois et les marais. Je ne connais aucun endroit qui a fait l'expérience de tous les malheurs que je décris. Et pourtant, chacun de ces désastres a réellement eu lieu quelque part. Et de nombreuses communautés, bien réelles, ont déjà souffert d'un certain nombre d'entre eux. Un effroyable spectre s'est insinué parmi nous sans que nous nous en rendions compte. Et cette tragédie imaginaire pourrait aisément devenir une réalité brutale que nous connaîtrons tous. Rachel Carson, Printemps silencieux, 1962. Élise Rousseau et Philippe Dubois, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux, vous qui publiez ensemble chez Albin Michel, Ornithérapie et si les oiseaux nous aidaient à aller mieux. Alors c'est vrai que j'ai choisi d'ouvrir l'émission avec Printemps silencieux de Rachel Carson parce que la semaine dernière, la Ligue de protection des oiseaux pour laquelle vous avez travaillé, Philippe Dubois, la LPO, organisait partout en France des manifestations pour porter le deuil de la nature et alerter sur sa disparition tragique. C'est exactement ce que nous disait Rachel Carson il y a plus de 60 ans. Philippe Dubois.
Quelle œuvre de prémonition elle a écrit. Enfin, c'est incroyable parce qu'on pourrait quasiment faire aujourd'hui un copier-coller de ce qu'elle décrivait il y a 60 ans. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que les chiffres, maintenant, on a beaucoup progressé dans la recherche et dans le suivi de ces espèces. Et on voit qu'aujourd'hui, 25% des oiseaux ont disparu en Europe en 40 ans. Ouais. Ce chiffre monte à 60% pour les espèces des milieux agricoles.
C'est 800 millions d'oiseaux, hein, je crois.
800 hein. millions d'oiseaux qui ont disparu.
Rien qu'en Europe.
Donc, c'est rien qu'en Europe, vous avez raison. Donc, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Et peut-être devrions-nous entendre davantage ce que les oiseaux ont à nous dire aujourd'hui.
Élise Rousseau, c'est un peu désespérant quand même de voir que finalement, en 60 ans, on en est toujours à dire la même chose et qu'aujourd'hui, on porte le deuil de cette nature.
Moi, j'ai eu un grand-père qui travaillait dans une des premières chaires d'écologie du Muséum d'Histoire Naturelle et qui, j'ai retrouvé des archives il n'y a pas si longtemps, qui déjà alertait à son époque, il y a bien 60 ans, en disant, voilà, on va aller dans le mur. Mais alors, à l'époque, autant vous dire que personne ne l'écoutait, même dans sa propre famille. Enfin, personne n'écoutait, c'était vraiment les écologistes avant l'heure en fait. Donc, c'est sûr. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même un peu plus entendu de nos jours qu'autrefois.
Vous avez l'impression quand même ?
Quand même, parce que moi-même, quand j'ai commencé en tant que jeune naturaliste, on était moqués, hein, vraiment, réellement, hein, dans notre engagement pour la nature et la biodiversité. C'est plus le cas quand même aujourd'hui.
Ouais. Et pourtant, Philippe Dubois, toutes les causes de cet effondrement là, que vous venez de décrire, on les connaît très très bien aujourd'hui. Elles sont parfaitement identifiées.
C'est parfaitement identifié depuis le début des années 1990. Souvenez-vous, le sommet de Rio en 1992, quand les scientifiques avaient terminé leur déclaration finale par « il nous reste 10 ans pour sauver la planète », c'est-à-dire sa biodiversité, dans laquelle, ouais, évidemment, se trouvent les oiseaux. Et puis, qu'a-t-on fait depuis ? Eh ben, on peut se poser la question de cet avancement qui se fait vraiment à très petits pas. Et la nature, elle n'attend pas. C'est ça le gros souci.
Et la France qui, dans le même temps, adopte, comme le 20 février dernier, une loi d'orientation agricole qui dépénalise, par exemple, des atteintes graves telles que la destruction d'espèces protégées, l'arasement des champêtres, ou en assouplissant les réglementations pour les pesticides. Donc tout ça va à l'envers, en fait, de cette
c'est
histoire.
C'est une espèce de régression contre-intuitive, je dirais.
Lise Rousseau.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que, enfin, parce que on là maintenant, on peut plus dire qu'on ne savait pas. Enfin, ça fait quand même un moment qu'on alerte. Même maintenant, enfin, autant dans les médias autrefois, on avait du mal à se faire entendre, autant maintenant, il y a des émissions comme la vôtre, ça on en parle. Et on a l'impression, effectivement, là, qu'il y a un espèce de rétropédalage sur tout ce qui est environnement, qui est absolument stupéfiant. Et pour les oiseaux, Philippe, qui est ornithologue, peut en témoigner. Nous, sur le terrain, on se rend bien compte qu'il y en a moins. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça se voit, en fait, maintenant. Les spécialistes voient qu'il y a moins d'oiseaux.
Ouais, ça se voit comment, d'ailleurs ? Ça se voit ou ça s'entend, d'ailleurs, Philippe ?
Les deux. Vous avez complètement raison. Vous revenez dans un petit village que vous avez connu il y a 5 ans et vous cherchez les hirondelles. Mais où sont les hirondelles ? Puis vous interrogez les gens. Ils vous disent, il y en a plus depuis 2 ans. Vous êtes en forêt, vous dites, mais pourtant j'ai toujours mon ouïe. Il y avait beaucoup plus d'oiseaux qui chantaient dans cette forêt à cette époque.
Ouais.
Et le silence se fait petit à petit.
Nous portons le deuil, disaient donc la semaine dernière les manifestants derrière la LPO, nous portons le deuil, mais nous conservons notre énergie. Et votre livre, justement, peut y contribuer, puisque vous nous invitez dans Ornithothérapie à écouter et contempler les oiseaux pour alléger nos existences. Le moins qu'on puisse dire, c'est que votre ouvrage tombe à pic. Les oiseaux auraient donc des vertus thérapeutiques, Élise Rousseau ?
Alors nous, on en est persuadés, c'est pour ça qu'on l'a écrit. On l'a aussi écrit dans un contexte où on a nous-mêmes souffert d'éco-anxiété, parce que comme toute personne engagée dans la protection de la nature. Bon, je pense qu'on est tous, on passe tous à un moment donné à cette période d'éco-anxiété. Nous, on l'a eu peut-être un peu même avant que ça soit ressenti un peu plus par le grand public.
Vous l'avez passé et vous l'avez dépassé ?
Ben, dépassé, ça revient régulièrement, hein, mais à un moment donné, moi j'avais même écrit une bande dessinée sur le sujet, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, l'éco-anxiété, comment on fait en fait ? Et vraiment, dans les solutions que nous on a trouvées, c'est même s'il faut pas trop penser qu'il y a moins d'oiseaux, mais malgré tout, quand on se reconnecte avec la nature, qu'on se replonge dans la nature, qu'à un moment donné, on oublie le monde des hommes, on se reconnecte dans le carpe diem de l'oiseau, de l'instinct, et ben ça va complètement mieux tout de suite. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein d'études maintenant qui l'ont prouvé. Et...
Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Oui. Est-ce que justement, ces vertus thérapeutiques, elles sont sourcées, documentées, scientifiquement étudiées ?
Absolument. Quelques, on ne va pas vous abreuver de chiffres, mais on s'est aperçu, par exemple, l'université de médecine du Michigan a montré très clairement qu'il y avait une corrélation entre la biodiversité, l'abondance de la biodiversité à Vienne et la diminution, par exemple, des hospitalisations pour dépression. Une autre étude qui a montré que le taux de cortisol, le cortisol, c'est une hormone, c'est l'hormone du stress, au bout de 5 ou 6 minutes où l'on est dehors, où on écoute les oiseaux et où on se promène, le taux va diminuer.
Ça a été mesuré par des médecins.
Oui. On sait même que 2 heures par semaine, ça va prolonger de façon longue. Et 6 minutes de contact, 6 minutes, hein, c'est pas 5, 6 minutes de contact avec les chants des oiseaux vont vous faire, grâce à la baisse du cortisol, vous faire diminuer vos pensées irrationnelles, votre stress, pour un effet qui peut durer jusqu'à 8 heures.
Ouais.
Donc si tous les jours vous faites 2 heures de bain d'oiseaux, si je puis dire, vous allez vraiment aller mieux.
Donc il y a des médecins qui prescrivent ça, Élise Rousseau, sérieusement ?
Oui, c'est au Royaume-Uni en fait. Mais alors c'est vrai que nous en France on regarde ça avec curiosité, mais
avec un œil un peu suspicieux.
Mais,
oui.
Mais les Anglais, les Américains sont des fadas d'oiseaux, et donc c'est vrai qu'ils ont, suite à toutes ces études, ils se sont dit bah voilà, maintenant réellement à aller voir les oiseaux, aller vous faire du bien. Nous, on le sait en tant que naturaliste depuis longtemps, en fait. C'est pour ça aussi qu'on veut essayer de le partager, ce bienfait que ça nous apporte. Et aussi notre message, c'est par rapport à ce que vous disiez au début, c'est non seulement il faut protéger la biodiversité parce qu'il faut la protéger, mais aussi parce qu'elle nous fait du bien, mais réellement, ouais. En fait.
Je ne vais pas marcher sur les plates-bandes d'Ali Rebéi, mais quand même, on va parler du bien-être, effectivement, des oiseaux. Vous qui êtes, Élise Rousseau, une bird-watcheuse, une observatrice donc, des oiseaux, c'est un terme qui est repris en France,
oui.
Ça ?
Oui, parce que si vous voulez, il y a les ornithologues dont fait partie Philippe, qui sont, on va dire, vraiment un peu le côté un peu scientifique. Mais après, il y a tous les amateurs comme moi qui aiment regarder les oiseaux sans forcément avoir un niveau scientifique ou très pointu, en fait. Et donc, le birdwatcher, c'est celui qui a un amour des oiseaux qui n'est pas forcément scientifique, qui peut être poétique, qui peut être philosophique, qui peut être simplement esthétique aussi, cette pure beauté de leur chant, de leur plumage et le bonheur d'aller dans la nature et de les observer.
Est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de beach watchers ou bird watchers ou watcheuses en France, Philippe Dubois, ou pas ?
Il y en a plusieurs dizaines de milliers. Je pense que, malheureusement, on n'a pas de chiffres précis, mais c'est sûrement plusieurs dizaines de milliers. En tout cas, les gens, par exemple, qui participent à des enquêtes, les oiseaux des jardins, etc., c'est déjà au moins 150 000. Je pense qu'il y a des centaines de milliers de gens qui ont pris, en France, au moins une fois, une paire de jumelles dans une année pour regarder les oiseaux.
Mais c'est beaucoup moins qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Oui, même. Oui. C'est ce qu'on découvre, d'ailleurs, en lisant votre ouvrage, c'est que les Américains sont complètement dingues aussi d'oiseaux.
Ah, ils sont complètement dingues. Eux, ils ont 70 millions de personnes qui regardent les oiseaux au moins une fois par an. Ouais. Et à tel point que c'est même un business, hein, puisque c'est le troisième sport de plein air, après le golf et la marche à pied.
Et en Angleterre, il y a une histoire aussi très ancienne.
Bien sûr, il y a 1 million de membres à la Royal Society for Protection of the Birds, qui est l'équivalent de la LPO en Angleterre. Et c'est cette tradition, effectivement. Les pays anglo-saxons sont plus en avance. Mais les pays latins, comme l'Espagne, comme l'Italie, sont en train de faire...
Mais les Français peuvent faire mieux, quand même, apparemment.
Oui, parce qu'on n'est pas le meilleur, alors qu'on pourrait, vu quand même, on est le deuxième pays d'Europe en termes de population.
Je suis sûr qu'à l'issue de cette émission, vous allez donner envie à beaucoup plus de gens d'aller observer, écouter, méditer, même avec les oiseaux. On va en parler avec vous dans un instant. Et puis, nous attendons vos témoignages. Si vous aussi, qui nous écoutez, eh bien, vous avez un lien particulier avec les oiseaux. Si vous aimez les observer, eh bien, faites-nous en part. Vous pouvez nous rejoindre avec vos messages sur franceinter.fr et sur la page de la Terre au Carré.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Après avoir été longtemps pratiqué par quelques amateurs souvent fortunés, l'ornithologie est aujourd'hui en passe de devenir un sport national, notamment à travers ce qu'il est convenu d'appeler le birdwatching, très prisé par les anglo-saxons, comprenez l'observation des oiseaux.
Et la voix que vous avez reconnue d'Alain Bougrain-Dubourg, c'était en 2013 sur France Inter avec son émission « Vivre avec les bêtes » à l'occasion de cette Terre au Carré autour de votre livre « Ornithérapie et si les oiseaux nous aidaient à aller mieux ». C'est chez Albin Michel et vous en êtes les auteurs et autrices Élise Rousseau et Philippe Dubois. Est-ce qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure face à la crise que traverse la biodiversité, il faut peut-être malheureusement en arriver à trouver des fonctions utilitaristes à la nature pour tenter de nous sensibiliser à leur cause, Élise Rousseau, dire par exemple que les oiseaux nous font du bien, est-ce que c'est pas justement un biais utilitariste pour en parler?
Moi, là, alors sur le coup, c'est plutôt l'envie de partager en fait. Moi, titre personnel, je suis contre une approche utilitariste. Je pense qu'il n'y a pas nécessité que ça soit utile pour être préservé. Mais il se trouve que dans la réalité, toute nature est totalement plus qu'utile. Enfin, on ne peut pas vivre sans, de toute façon. Et les oiseaux comme le reste, donc de toute façon, bien sûr que c'est utile, mais c'est tellement vital que c'est bien au-delà de notre simple bien-être. Là, c'est vrai qu'on parle de l'aspect bien-être en plus, mais c'est une absurdité de l'être humain d'avoir tant de mal à le comprendre, finalement.
Philippe Dubois, vous écrivez qu'entrer dans le monde des oiseaux, c'est s'ouvrir au reste d'un univers qui demeure largement inconnu. Et tout ça, eh bien, on peut le vivre en faisant, par exemple, une sortie ornithologique, de jour ou de nuit d'ailleurs, en s'installant des mangeoires ou en s'engageant au sein d'associations de préservation. Bref, en rejoignant cette confrérie des amoureux des oiseaux.
Oui, c'est une confrérie. Je pense que tous ceux qui observent les oiseaux ou la nature d'une manière générale sont des gens qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin de retrouver dans la nature des fonctions premières que le monde à la fois citadin et le monde de l'immédiateté nous fait perdre. Et retrouver les oiseaux, retrouver, je dis bien, c'est aussi se reconnecter à cette nature par l'intermédiaire d'êtres tout à fait simples qui font tous leurs efforts pour nous aider, sans faire de l'anthropomorphisme, qui font tous leurs efforts pour nous entraîner vers
si, cette... Si on respecte quelques règles quand même, hein, parce que vous le rappelez aussi dans l'ouvrage.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, il y a quelques qualités à avoir pour l'observateur. Hein.
Déjà, c'est la patience. Si vous êtes impatient, il faut mieux rester chez vous. C'est l'humilité. Cesser de penser que nous sommes toujours en haut de la pyramide et que moi souvent je dis que les oiseaux sont comme des frères, alors je vais pas faire Saint François d'Assise, mais c'est quand même un peu ça, c'est-à-dire se mettre à leur niveau avec eux et les respecter.
Est-ce que les oiseaux d'ailleurs font la distinction entre un bird watcher et un chasseur?
Alors peut-être pas tous, mais les corvidés oui. Il y a eu une étude faite en Angleterre qui a montré que les corvidés savaient très bien quand ils voyaient apparaître au loin une troupe de Nemrod, peut-être que c'est la couleur orange, je ne sais pas, mais en tout cas, très rapidement, ils font la différence avec un ramasseur de champignons ou un porteur de jumelles.
Élise Rousseau, donc la patience, certes, la discrétion aussi, si on veut entrer en communication avec les oiseaux.
Puis alors, j'aurais tendance à dire, c'est des qualités qui s'acquièrent aussi au fur et à mesure qu'on... Parce que je connais beaucoup d'ornithologues extrêmement impatients dans la vie.
Et qui sont capables de faire...
Et qui sont d'une patience d'ange, puis quand il
devant
s'agit de chercher...
Ouais. Je me sens visée.
De chercher des oiseaux. Et si vous voulez, en fait, bien sûr que, en fait, dès lors qu'on va, ces animaux qui, rappelons-le, s'envolent, donc si vous y prenez mal pour les approcher, l'observation peut tourner court très vite.
Oui.
Donc effectivement, il faut avoir une façon de les aborder extrêmement discrète, essayer de mettre un peu entre parenthèses notre côté prédateur qu'on a tous. Hein, on est malgré tout des super prédateurs, on l'oublie souvent, être humain, mais les animaux l'oublient pas, hein, ils ont peur de nous. Donc arriver à s'approcher d'eux vraiment, savoir être discret, savoir être patient, savoir vraiment écouter, regarder avec... savoir mettre tous ses sens en affût comme les humains premiers qu'on a encore en nous, peut-être autrefois, quand on savait encore se mouvoir dans une forêt, dans la nature et approcher les animaux.
Donc l'ouïe et la vue, c'est deux sens majeurs pour l'observateur d'oiseaux, a priori?
Ce sont deux sens totalement majeurs et qui peuvent se cultiver.
Oui, Philippe Dubois?
Oui, je pense que ça, c'est... Alors, on sait aussi d'ailleurs que les cultiver, ça permet aussi de ralentir certaines maladies neurodégénératives. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a surtout quelque chose qui est important. C'est qu'il faut passer du voir au regarder et de l'entendre à l'écouter. Je m'explique. Lorsque vous promenez comme ça, vous voyez une bande de goélands qui décollent ou des pigeons. Mais vous ne savez pas les regarder. Vous ne savez pas les regarder. Et c'est ça déjà, ce que l'on propose, c'est d'apprendre à regarder les oiseaux. Ouais. Et entendre et écouter, c'est pas la même chose. Vous entendez des oiseaux quand vous promenez à la campagne ou en forêt, mais on ne sait pas forcément les écouter.
Ouais.
Et en les regardant, en les écoutant, on rentre alors dans leur intimité. Et pour peu qu'on pose un nom, c'était...
Alors c'est ça, il faut savoir les nommer aussi.
Voilà.
C'est ça qui est compliqué.
Mais voilà, Claude Roy, qui était un écrivain qui adorait les oiseaux, disait toujours... Poser un nom, donner un nom à un oiseau, c'est rentrer dans son intimité.
Ouais.
C'est-à-dire que cette petite boule de plumes bleues et jaunes, si vous pouvez dire que c'est une mésange bleue, alors vous avez déjà fait un pas vers elle.
Les nommer, reconnaître leur chant, Élise Rousseau.
Alors j'ai plus une approche, plus amateur que Philippe, qui est vraiment un ornithologue extrêmement pointu. C'est-à-dire que moi, je pense que même si on n'est pas bon du tout en chant, ce qui est parfois mon cas, ou qu'on ne sait pas forcément identifier un oiseau, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça nous fait du bien à tous. On peut tous, même aussi débutant qu'on soit, on peut profiter des bienfaits que cela apporte. C'est une telle beauté, le chant, le plumage, leur comportement, c'est tellement amusant que ça fait du bien à tout le monde. Et ouais. J'aurais envie de dire, c'est pas grave si vous n'êtes pas un super ornithologue, regardez quand même les oiseaux, ça vous fera quand même du bien.
Ouais. On va écouter le chant d'un oiseau que tout le monde va reconnaître, même moi, c'est vous dire.
Voilà.
Alors, c'est pas le chant le plus mélodieux au monde. Hein.
Mais est-ce qu'il nous met pas tous en joie, ce chant?
Le chant du coucou.
Oui.
Hein,
parce que c'est le printemps, en fait. C'est joyeux, c'est un des chants les plus joyeux qui soit. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un des oiseaux les plus... Enfin, parmi les oiseaux communs, il est extrêmement difficile à voir. En fait, qui a vu un coucou ? Moi, je l'ai vu depuis que je fréquente les ornithologues, mais avant, je n'avais jamais vu de coucou, alors qu'on l'entend tous tout le temps.
Ouais.
Enfin, quand on vit à la campagne.
Il est vraiment difficile à voir.
Il est très, très critique. Il se montre très peu. Très, très peu. Il chante, avec ce fameux chant,
ouais.
Mais il est... Il n'aime pas voler, et c'est un oiseau qui reste toujours à couvert au fond d'un, ouais. D'un taillis, etc. Donc c'est effectivement... Moi, ma grand-mère qui m'a initié à l'ornithologie, qui est morte à 96 ans, m'avait dit... Ma grande désespérance, c'est que je n'ai jamais vu de coucou de ma vie. Voilà,
ah ouais.
Voilà. Donc c'est... Alors que, comme le dit très bien Élise, c'est tellement joyeux quand il va chanter dans quelques jours. Là.
Et ce sera le coup de feu pour le printemps,
coucou,
ça y est.
Voilà le printemps.
C'est ça, ouais. Est-ce qu'il faut être un bon imitateur d'oiseaux pour les observer aussi ? Est-ce que
ça peut aider.
Créer de la complicité avec l'animal ?
Ah oui, si vous voulez voir le coucou, je ne devrais pas le dire, mais vous faites vous-même coucou, coucou, comme ça.
Et là, faites-nous coucou encore, voilà. S'il vous plaît.
Coucou, ouais. Là, il va venir.
Et ça marche.
Sûr.
Hein.
Ah, ça marche très bien.
Ouais.
Donc là, vous verrez le coucou.
Ouais. Donc il faut avoir une bonne gamme aussi d'imitation.
Oui, hein. Sans en abuser.
Ouais.
Alors ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'avec moi, ça ne marche pas, par exemple.
C'est vrai, mais alors il faut être bon chanteur ou pas pour imiter les oiseaux ?
Non, non, il faut
parce que vous dites à quel point il y a une gamme quand même absolument hallucinante.
Bon siffleur, hein. Bon siffleur.
Les cris, le chant, les cris.
Oui, oui, il faut être bon siffleur, mais il vaut mieux... se contenter de les écouter plus que de les imiter, parce qu'on les perturbe, évidemment, comme vous faites. Pour lui, c'est un autre mâle qui chante, ça ne va pas du tout.
Quel est votre chant d'oiseau préféré, vous, Philippe Dubois ?
Oh, le rossignol.
Le rossignol
ah, oui, c'est tout bête, mais c'est tellement... Bon. Enfin, la griffe musicienne aussi, enfin, c'est des grands...
Vous savez les imiter ou pas ?
Non, du tout.
Non, c'est vrai ?
Non, c'est très... Non, c'est très, très...
Et vous, Élise ?
Ah non, mais encore moi, je suis pas... Moi, pour le coup, les chants, je fais un petit blocage auditif.
Ouais. Est-ce que toutes les espèces se laissent approcher de la même manière ou pas ?
Absolument pas, en fait. C'est ça aussi qu'on va apprendre sur le terrain, c'est évaluer son comportement vis-à-vis des espèces. Il y a des oiseaux très farouches, il y en a beaucoup plus familiers. Voilà, ne serait-ce que les pigeons des villes par rapport à voilà et ils ont leur tolérance d'approche qui n'est pas la même souvent d'une espèce à l'autre.
Ouais. On va faire du yoga et de la méditation avec vous dans un instant, et puis vous allez répondre aussi et commenter les messages qui sont très 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 nombreux. On a plein de bird watchers et watcheuses qui écoutent la Terre au carré, donc on a plein de messages pour vous dans un instant.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Bah là, c'est ce qui est assez sympa, c'est qu'on est encore en période hivernale. Donc, on a encore énormément d'espèces hivernantes pour nous qui vont pas tarder à nous quitter pour aller nicher au nord de la Scandinavie. Ce qui me plaît, moi, ici, c'est d'avoir des oiseaux comme les spatules, là, qui viennent peut-être du Niger. Peut-être qu'il y a quelques jours, elles étaient en train de survoler l'Afrique du Nord. Peut-être que dans quelques jours, elles arriveront aux Pays-Bas.
Là, regardez, il y a un énorme oiseau tout blanc, là.
Oh, la grande aigrette, bien vu.
Elle s'appelle Cécile Carbonnier, guide naturaliste, extrait d'un reportage de France Télévisions en février dernier sur la découverte des oiseaux du Marcanterre. Élise Rousseau, Philippe Dubois, vous publiez ensemble chez Albin Michel Ornithérapie et si les oiseaux nous aidaient à aller mieux. Il y a une mémoire des oiseaux qui est importante, Philippe Dubois. Pourquoi vous en parlez à ce point-là, dans la transmission même quasi générationnelle de ce qu'on observe, de ce que l'on entend ? Pourquoi
alors,
c'est important aujourd'hui ?
Il y a cette transmission où il y a justement parfois cette absence de transmission. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'amnésie écologique, c'est-à-dire que les générations antérieures n'ont pas transmis aux générations suivantes les informations qu'ils pouvaient avoir. Et on se retrouve, les générations actuelles se retrouvent finalement avec cette absence de mémoire, si vous voulez, c'est-à-dire que et qui nous revient dans la figure très fort. Ce que je disais tout à l'heure, vous revenez dans le village que vous avez connu dans votre jeunesse, les hirondelles ont disparu, la petite mare autour de laquelle vous jouiez avec vos amis n'est plus, le petit bois s'est transformé en zone pavillonnaire, et ça fait l'émergence, évidemment, de la solastalgie, c'est-à-dire que le pays nous quitte. Et cette mémoire, il faut qu'on la cultive. Et justement, ce qu'on propose, nous, c'est d'aller au contact des oiseaux pour préserver et entretenir cette mémoire pour pouvoir ensuite nous-mêmes devenir des passeurs, si vous voulez.
Élise Rousseau, donc on transmet en allant sur le terrain, en échangeant, en écrivant aussi beaucoup dans les carnets ses observations. Le birdwatcher est aussi un observateur qui utilise l'acuité de ses sens pour...
Oui, mais alors, bien sûr, alors les ornithologues, etc., elles sont beaucoup, écrivent beaucoup. Alors maintenant, ça passe aussi beaucoup par des applications, des logiciels participatifs, mais faut aussi il y a aussi plein d'autres façons, peut-être plus artistiques. On peut aussi dessiner les oiseaux, on peut aussi, je ne sais pas, écrire de la poésie. Enfin, je veux dire, il y a aussi tout ce qui est artistique qu'on peut aussi apporter autour de cet animal. Moi, ma mère, par exemple, les peignait sur des assiettes. Il y a plein de façons, en fait, d'aimer les oiseaux, finalement.
Vous comparez l'observation des oiseaux à une méditation. Vous citez le zazen du pinson ou le yoga de la mésange.
Oui. Alors là, c'est quand vous observez un oiseau, c'est extraordinaire comme il passe son temps à s'étirer, en fait. Vous regardez une mésange, une tourterelle, ça étire ses ailes, ça étire ses pattes, ça abaille. Et nous, en fait, humains, on a complètement oublié de le faire, à part les petits-enfants, les bébés qui font naturellement de s'étirer. Nous, humains, on est toujours tellement speedés que dans nos vies, on passe pas ce temps, en fait, à s'étirer, alors qu'on sait que ça fait baisser l'hypertension, c'est extrêmement bon, en fait. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, les animaux, eux, n'ont pas besoin de faire du yoga ou de la méditation, parce qu'ils le font déjà quelque part naturellement.
Et donc, observer l'oiseau, c'est déjà entrer dans une forme de méditation.
Mais bien sûr, parce que de le regarder, en fait, ça ancre dans le temps présent. En fait, c'est vraiment l'oiseau, c'est le carpe diem. Donc, si on l'observe de façon intense, on est avec lui dans ce temps présent. C'est vraiment ce que les animaux ont à nous apporter. Nous, on passe notre temps philosophiquement, psychologiquement, à essayer de retrouver ce carpe diem, parce qu'on est toujours humain, en train de soit ruminer le passé, soit s'angoisser pour le futur. Alors bon, il y a peut-être un peu de quoi des fois, mais cependant, c'est bien aussi, on sait très bien en psychologie que l'ancrage dans le temps présent, et ce qu'on appelle aussi la méditation de pleine conscience, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien, et les animaux, effectivement, le font naturellement.
Et il faut accorder du temps à l'oiseau, aux oiseaux, quand on va les observer sur le terrain, Philippe Dubois, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment de la patience. Hein.
Il faut de la patience.
On ne les voit pas tous les coups.
On ne les voit pas tous les coups, donc c'est cette patience. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est justement, ça nous permet d'aiguiser nos sens. Je reviens là-dessus parce que c'est très très important. D'écouter les oiseaux en permanence, de les regarder, ça vous entretient l'ouïe et ça vous entretient la vue. Moi, j'ai maintenant un certain âge et j'ai une très bonne ouïe et je suis persuadé que cette ouïe, je l'ai travaillée pendant des décennies à écouter les oiseaux, à essayer de les percevoir, à essayer de les identifier. De même, vous passez votre temps à scruter le ciel, à scruter l'horizon, à scruter la forêt. Donc, vous travaillez ces sens.
Vous dites que pour un naturaliste, plonger dans la contemplation des oiseaux, c'est sans doute l'un des moments les plus intenses. Tous les deux, qu'est-ce que vous éprouvez à ce moment-là, Élise Rousseau ?
Alors moi c'est vrai que là je repense à les dernières grandes émotions que j'ai eues, c'est cet hiver, c'était les chouettes qui chantaient à la lune, là, à la pleine lune, et c'était des moments, en fait, de frissons, un peu de, comment dire, c'est comme si ça m'emportait, c'est vraiment des moments magiques, en fait, cette puissance de la chouette ulotte qui chante la nuit, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui me faisait plus peur quand j'étais jeune, parce que je savais pas ce que c'était, cette nature et cette nuit. Et depuis que je suis naturaliste, non seulement j'ai plus peur de la nuit, mais je trouve que c'est réconfortant, c'est magique, c'est un monde merveilleux, la nuit, le monde du silence, enfin pas du silence d'ailleurs, c'est assez bruyant la nuit, si on écoute tous les animaux qui y vivent.
Et vous, Philippe Dubois, qu'est-ce que vous éprouvez en observant pendant des heures et des heures les oiseaux ?
C'est d'abord se réconcilier avec soi-même, se réconcilier aussi avec la nature, c'est être... oui, moi j'aime bien cette expression d'être en méditation de pleine conscience. Quand je regarde par exemple les oiseaux marins, la migration des oiseaux marins en Bretagne, je peux passer mes 10 heures assis sur ma falaise à regarder les oiseaux qui passent au large. C'est un envoûtement, c'est vraiment un envoûtement. Et vous sortez de là fatigué, mais tellement bien, tellement... Alors là, le cortisol, il y en a plein.
Allez, on va passer aux questions et aux témoignages parce qu'ils sont très nombreux. Bénédicte, sur la page de La Terre au Carré, demande si les enregistrements de chants d'oiseaux peuvent être aussi bénéfiques que leurs chants en direct, à votre avis. Philippe Dubois.
Moi, j'ai tendance à... Enfin, je
non, c'est Lise Rousseau qui répond.
Excusez-moi.
Mais vous avez le droit, allez-y.
je pense que ils doivent être bénéfiques, puisque vous savez, dans tout ce qui est musique de relaxation ou justement méditation guidée de pleine conscience, ils mettent souvent des chants d'oiseaux, vous remarquerez. Alors, il y a aussi des glouloutements de ruisseaux, etc., des bruits de la nature, mais les oiseaux sont souvent très présents. Donc, j'imagine que c'est qu'effectivement, c'est bénéfique.
Jérôme nous écoute en observant les premières hirondelles arrivées de migration rentrer dans son étable. Donc, on le remercie de ce petit témoignage. Géraldine nous dit « J'adore regarder les oiseaux qui viennent dans les mangeoires installées dans l'arbre devant ma fenêtre de cuisine. Et ce matin, j'ai eu la chance de voir un magnifique jet des chênes. Ce sont mes animaux de compagnie. Installer des nichoirs. Est-ce qu'il faut donner à manger aux animaux, aux oiseaux ou pas l'hiver ?
L'hiver, quand il fait froid, oui, bien sûr. Mais pas au printemps.
Mm-hmm. Et donc, les mangeoires aussi ? En installer ?
Absolument.
Dans la mesure du possible ?
Absolument, oui.
Françoise dit, en ces premiers jours de printemps, il y a de nombreux oiseaux qui chantent dans ma campagne, dans les monts du Lyonnais. Je me promène tous les jours avec une application d'identification des sons. C'est un bonheur d'entendre le pouillot véloce, la grève d'reine, le rouge-gorge et le merle, bien sûr, les mésanges à longue queue. Une cure de jouvence, nous dit Françoise. Patrice et Catherine, 100 kilos de tournesol chaque année, au bout du compte, mésanges, moineaux, chardonnays, autres volatiles qui viennent picorer sur les mangeoires au bord des fenêtres. Plaisir des yeux, toujours recommencer. 100 kilos quand même, hein.
Oui.
Ça commence à être pas mal, là.
Oui.
Nous sommes installés dans l'Albanais savoyard, nous dit Quichot, depuis 2016, entouré de forêts, et étions stupéfaits par l'assourdissant chant printanier des oiseaux. Mais d'année en année, eh bien, il n'est plus assourdissant, et c'est vraiment inquiétant, et vive la LPO, le premier des réseaux Zozio. Voilà, nous dit aussi ce couple d'auditeurs. Agnès habite dans le Vaucluse. Je ne participe pas au comptage des oiseaux. Je ne sais pas faire, mais je prends soin d'eux. Ils sont de plus en plus nombreux, et tant mieux pour elles. Hein. Ils ont de l'eau toute l'année, de la nourriture, ça attire d'autres espèces. Je suis comblé, il y a même un renard qui est venu. Malheureusement, je crois que les chasseurs sont aussi passés par là. Le comptage des oiseaux, Élise Rousseau, c'est important de de pouvoir apporter là aussi des données pour la science.
Dès lors qu'on commence à avoir un petit niveau, qu'on est capable d'identifier les espèces d'oiseaux de son jardin, oui, c'est un apport pour la science. Effectivement, il y a de plus en plus de sciences participatives.
Ouais.
Et aussi, c'est une façon de participer aussi à cette communauté des birdwatchers et d'avoir l'impression d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Moi, je fais aussi le comptage des vers luisants, par exemple.
Ah ouais.
Il y a toutes sortes de comptages qui existent, assez rigolo. Et bien sûr que nous, on encourage ça.
Yann nous dit, petit témoignage en marge de votre émission, lorsque je laisse mon smartphone me réveiller avec une sonnerie d'oiseaux, au bout de quelques minutes, tous les oiseaux de la cour se mettent à imiter le son que je diffuse. J'adore ce moment, mais je m'inquiète de leur transmettre ce langage GAFAM. En bref, écouter les oiseaux, c'est magnifique pour ce témoignage. Alain vit en Corse, entouré de fauvettes, de pinsons, de chardonnays. Tous m'invitent à l'abandon de toute pensée intellectuelle pour laisser monter en moi la joie de me sentir vivant.
Je pense qu'il résume parfaitement les choses.
Voilà, c'est un beau résumé de ce que vous nous racontez dans ce livre.
Oui, je partage
en une seule phrase.
Complètement son témoignage.
Mathilde nous dit, j'écoute avec grand intérêt votre émission, mon chant préféré est celui du Koukaboura. Vous connaissez cet oiseau, Martin, chasseur australien.
Oui, c'est ça. Alors, peu de chance de le voir chez nous,
ouais.
Mais qui a une sorte de rire.
Son cri, dit-elle, ressemble à celui d'un singe.
Oui, c'est une espèce de... Oui, je ne sais pas ce qu'il y a de plus musical. Hein.
Ouais. En tout cas, il dit que sa passion pour l'ornithologie a démarré lors d'un voyage en Australie. Diversité de magnifiques oiseaux. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous vos témoignages. Vous pouvez continuer d'ailleurs à nous les laisser aussi sur la page Instagram de l'émission. Et puis, je vous invite à découvrir cet ouvrage qui paraît donc chez Albin Michel. Ça s'appelle Ornithérapie. Et vous en êtes les auteurs, Philippe Dubois et Élise Rousseau. Et si les oiseaux nous aidaient à aller mieux. Merci beaucoup d'être venu nous en parler
aujourd'hui. Mathieu.
Merci. Et bon retour en Bretagne. Merci à vous et merci à Joël Levert qui a préparé aujourd'hui ce dossier.